RTV 95.7, Music & News, avec Marianne Attanchot.
Écoutez Music & News tous les jours du lundi au vendredi à partir de 6h sur RTV 95.7.
À côté de la lutte contre les stupéfiants, à côté du renforcement de la police de quotidien, des opérations anti-délinquance que nous menons sur l'ensemble du territoire, notamment dans les quartiers, mais aussi en zone rurale, l'ordre public économique, c'est-à-dire à la fois s'assurer de la loyauté de la concurrence, protéger le consommateur, lutter contre le travail dissimulé, lutter contre effectivement l'emploi de travailleurs clandestins, s'assurer effectivement des respects des règles d'hygiène et de sécurité pour le consommateur sont effectivement une des priorités au sein de la politique de sécurité menée par l'État dans le département. Sur les fermetures, l'année dernière, comme l'année précédente, à peu près 20 fermetures ont eu lieu sur l'ensemble du département. Sur les deux premiers mois de l'année, j'ai déjà fermé 6 commerces. Ou 6 entreprises, soit pour des raisons de travail dissimulé, soit pour des raisons de non-respect des règles d'hygiène et de sécurité. Et je continuerai en ce sens. Il y a des procédures qui sont en cours. Elles doivent respecter le principe du contradictoire lorsqu'il s'agit d'irrespect, de violation du code du travail ou du code des débits de boissons. Donc on continuera dans cette voie et les contrôles seront renforcés, notamment sur tout ce qui est restauration rapide, tout ce qui est coiffeur burger et tout ce qui est marchand de sommeil. Un combat perdu, c'est celui qu'on ne mène pas, déjà. Et donc, je suis engagé dans une action résolue, déterminée avec les services de l'État, en lien étroit avec le pouvoir de la République, pour lutter contre le trafic de stupéfiants. D'abord, lutter contre le trafic sur la voie publique. Et j'ai donné instruction aux forces de sécurité intérieure, police et gendarmerie, de harceler, de perturber, de démanteler tout ce qui est trafic voie publique, les points de deal. Donc, dès qu'il y en a un d'identifié, dès qu'on me signale un point de deal, on intervient, on contrôle, on réprime. Et par ailleurs, bien évidemment, et l'action menée d'enquête judiciaire de long terme pour démonter les trafics menés par le procureur de la République. L'autre élément de la lutte contre les stupéfiants, c'est d'abord lutter aussi contre la consommation. Et également, on a une très forte augmentation des amendes forfaitaires qui ont été prises contre la détention et la consommation. Et par ailleurs, effectivement, lutter contre des délinquants notoires, notamment qui habitent les logements sociaux. Et il n'y a aucune raison de faire profiter ces délinquants de la solidarité nationale. Et donc j'ai signé une convention en 2023 avec l'ensemble des organismes sociaux du département pour expulser de leur logement des délinquants notoires. Et je compte bien en 2024 voir ces premiers débuts de mise en œuvre avec effectivement une expulsion de ces délinquants, sous le contrôle du juge bien sûr. Je me suis engagé à octroyer le concours à la force publique lorsqu'il y aura des jugements d'expulsion. Et bien évidemment, je me suis engagé à ne pas reloger ces familles de délinquants dans les parcs de logement social. Ça va de soi. L'agriculture, c'est un pilier de l'économie de l'Eure-et-Loir, même un pilier de son histoire et un pilier de la société eurélienne. Et elle doit le rester. Donc elle doit le rester en renforçant sa compétitivité. La mobilisation des agriculteurs d'Eure-et-Loir, qui est le symptôme d'une crise qui dure depuis longtemps, est multiforme. Et donc le gouvernement a entendu y répondre de manière ambitieuse et résolue avec plusieurs points. Le premier point, c'est le domaine de la simplification administrative et des normes, qui est menée à la fois à Bruxelles, à Paris. Moi, sur le terrain, sans attendre effectivement des instructions, j'ai commencé à simplifier ce qui est de mon niveau, ce que j'ai pu simplifier sans attendre des instructions. Et bien évidemment, une fois que les textes seront décidés à Paris, puisque certaines simplifications relèvent du champ législatif, et ça fera partie du prochain projet de loi sur la souveraineté de l'agriculture, d'autres relèvent de décrets, d'autres relèvent de décisions européennes. Donc dès que ces décisions sont prises, ma responsabilité, c'est de les mettre en œuvre sans tarder. C'est ce que je fais dans le cadre d'un dialogue quotidien, de confiance avec la Chambre d'agriculture, avec les organisations syndicales que j'entends mener. L'autre élément, c'est s'assurer effectivement du respect de la loi Egalim sur le département. Et notamment, j'ai lancé des plans de contrôle à la fois dans les grandes surfaces, mais également dans la restauration collective, pour s'assurer que effectivement les pourcentages d'utilisation des produits bio ou sous certification de signes de qualité étaient respectés, parce que sur la filière bio, qui est aujourd'hui connaît de très grandes difficultés du fait de l'effondrement de la demande privée, la demande publique de la restauration collective, tant publique que privée, inter-entreprise, peut être une source de diversification et en tout cas une opportunité d'activité. Tant que, pour l'instant, la demande privée connaît des niveaux très faibles. Le BTP est une crise qui s'ouvre notamment par l'effondrement du marché de logement neuf, mais globalement, l'économie eurélienne connaît un dynamisme qu'il faut encourager, bien sûr avec le fer de lance, le nouveau Nordisk sur le département, hein, avec un investissement de 2 100 milliards et la création de plusieurs centaines d'emplois. qu'on entend accompagner, favoriser, mais également tout un tissu industriel de PME, d'entreprises de taille intermédiaire, qui irriguent le territoire, qui donnent de l'emploi à notre population dans leur bassin de vie, notamment en domaine rural, que nous accompagnons par territoire d'industrie, par des opérations de rebond industriel, par France 2030, pour accompagner les entreprises qui connaissent des transformations profondes dans leur process de production, dans la ligne de leurs produits, à la fois en s'appuyant sur des technologies innovantes, en modifiant leurs méthodes de production vers des méthodes plus durables. Donc c'est accompagner toutes ces entreprises, c'est aussi développer une offre de formation de court terme et adaptée aux besoins locaux, au plus proche du territoire, donc dans les arrondissements, développer des écoles de production, comme le projet actuellement dans le Perche, pour permettre aux entreprises de trouver une main-d'œuvre de proximité et à nos jeunes et à nos moins jeunes d'avoir des débouchés en termes d'emploi. Quant à la filière BTP, effectivement, c'est une filière que nous suivons depuis plusieurs mois. J'ai mis en place une cellule d'alerte en lien avec la Fédération française du bâtiment et la CAPEB et l'ensemble des acteurs, dont le tribunal de commerce, mais la Banque de France, pour accompagner les entreprises, soit en accordant en lien avec la DFIP, la Direction des finances publiques, des échéances de paiement quant à leur dette fiscale ou sociale, mais également d'accorder, je l'ai fait encore dernièrement, à une entreprise une activité partielle, c'est-à-dire la prise en charge par l'État d'une partie des salaires pour mettre leurs salariés, je dirais, en chômage technique, sans les licencier, leur permettant de passer des trous d'air en termes de base d'activité. Bien évidemment, l'aménagement du territoire, on parlait d'économie, la création de richesses, qui est la base de tout. Après, la sécurité, ça passe par offrir à nos territoires, à la population qui vit dans les petites villes, dans les villes moyennes et en zone rurale, une amélioration de leurs conditions de vie, renforcer l'attractivité et donc effectivement les dispositions d'Action Cœur de Ville, de Petites Villes de Demain ou du Village d'Avenir consistent à accompagner les collectivités dans leurs projets d'aménagement urbain, d'aménagement de centre-ville, de centre-bourg, de développement de leur offre commerciale ou de services et aussi de lutter contre la vacance de logements, qui est ma priorité sur 2024, c'est-à-dire comment accompagner à la fois les propriétaires privés et les propriétaires publics à remettre sur le marché des logements aujourd'hui vacants. Ça permet de lutter contre l'insalubrité, ça permet de lutter contre les passoires thermiques et ça permet de lutter aussi en faveur de la sobriété foncière et remettre de la population au cœur des villages, au cœur des centres-bourgs, c'est gagnant sur tous les aspects. Aujourd'hui, nos concitoyens ont, du fait des crises successives qui se sont déroulées, sanitaires, sociales, climatiques, géopolitiques aussi, malheureusement, la parole publique connaît une érosion. Et donc, nos concitoyens attendent des réponses rapides à leurs problèmes quotidiens. Ils ne se payent plus de mots. Ils veulent des actions qui se traduisent concrètement dans leur vie de tous les jours. Et c'est mon obsession, c'est d'apporter effectivement, de mettre en œuvre ces politiques publiques au plus près du terrain, dans les territoires, leur montrer effectivement que les choses bougent, que les choses changent, que la sécurité est mieux assurée, que le cadre de vie dans les quartiers s'améliore, qu'on ouvre des commerces là où il n'y en avait plus. Toutes ces actions concrètes, c'est important de redonner confiance à nos concitoyens parce que aujourd'hui, ce qui mine notre pays, c'est le manque de confiance. Confiance en soi, confiance dans les autres. Je crois que cette confiance sera rétablie et c'est le devoir des acteurs publics de l'amener dans chacun de ses compétences, de pouvoir restaurer cette confiance dans l'action publique et au-delà de la confiance dans l'action publique, c'est aussi la confiance que chacun a en soi et la confiance dans les autres. Et c'est parce que c'est dans l'unité, en retrouvant un esprit collectif, que nous surmonterons le défi que connaît notre pays. La loi immigration du 26 janvier dernier à la fois alourdit les sanctions fortes contre le travail dissimulé, contre les employeurs indélicats, et j'entends bien utiliser de toute la sévérité prévue par la loi pour taper ces employeurs. Mais par ailleurs, cette loi immigration favorise effectivement le recrutement de travailleurs qui pour l'instant ne sont pas en situation irrégulière, qui sont sur notre territoire depuis plusieurs années, qui ont un emploi, donc participent à la création de richesses nationales, payent leurs impôts, les enfants sont scolarisés et sont dans une situation de clandestinité. Donc l'objectif, c'est de les sortir de cette précarité et de les insérer dans la société française en leur donnant des titres de séjour, en les régularisant, ce qui permet effectivement souvent de les protéger contre des employeurs indélicats et qui utilisent leur vulnérabilité. Ceux qui sont sous OQTF doivent respecter OQTF et donc quitter notre territoire national. Donc ce n'est pas cette population que je visais, c'est la population qui aujourd'hui ne fait pas l'objet de OQTF, est en situation irrégulière, mais vit, je dirais, paisiblement sur notre territoire, contribue à sa richesse, occupe un emploi, est inséré parce que leurs enfants sont scolarisés, voire participent à des actions associatives, mais ils ne sont toujours pas régularisés. Et donc, il faut qu'effectivement, on puisse les insérer totalement dans notre société. C'est à la fois bien pour vivre ensemble, c'est bien pour la cohésion sociale et c'est bien pour notre économie. Mais en même temps, continuer à lutter contre l'immigration irrégulière, les trafics clandestins, tous ceux qui participent, qui profitent, qui exploitent la vulnérabilité de ces personnes en situation irrégulière. Lors de la rencontre des quatre dirigeants de l'État, le 12 mars dernier, le président de la République a effectivement souligné que l'action publique, du fait de cette crise de confiance, nécessite plus de proximité, plus de simplicité, plus de participation de nos concitoyens à l'action publique. Et dans ce cadre-là, il a souhaité qu'effectivement les préfets de département, parce que c'est le bon maillage, le bon échelon territorial, disposent de plus de pouvoir, de plus de responsabilisation. Et dans ce cadre-là, moi j'en appelle effectivement à que les préfets puissent bénéficier de pouvoirs d'évaluation qui aujourd'hui sont encadrés de manière que je considère trop étroite. Il faut davantage faire confiance, c'est la volonté du président de la République.
RTV 95.7. RTV.